أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
بسم الله الرحمن الرحيم. Vous avez reçu le plan et il vous est indiqué sur le plan que nous allons parler aujourd'hui de la formation en se posant la question de savoir quelle est aujourd'hui la formation dont nous avons besoin. Il est dit à gauche et à droite qu'en général, les interventions qu'avec un certain nombre de frères nous faisons, en particulier les cours comme ceux-ci, sont destinés aux jeunes musulmans. Vous savez combien, par rapport à cette formulation, je suis critique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous poser ensemble la question de la formation, c'est de prendre nos responsabilités en tant que musulmanes et en tant que musulmans, par rapport à nous-mêmes, devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant Dieu, mais également, bien sûr, par rapport à la société dans laquelle nous vivons, et en préparation de ce que nous proposerons, incha'Allah, demain. Demain, c'est très rapidement là, à nos enfants, et à leur avenir dans cette société. Et donc cette question de savoir la formation pour les jeunes musulmans ne veut rien dire. Aujourd'hui, la vraie question, c'est que nous sommes des musulmanes et des musulmans dans une société européenne et que nous avons un défi. Ce défi, il faut le relever avec maturité, il faut le regarder en face, il faut le penser très profondément et refuser à tous les chercheurs et à tous les analystes qui infantiliseront notre réflexion le droit de continuer à le faire et à de nous pousser à penser que d'ailleurs viendra la solution. Aujourd'hui, effectivement, j'en arrive à une conclusion très simple. Ce n'est pas un hasard qu'on continue en permanence à parler des jeunes musulmans de France et nous-mêmes à utiliser ce vocable. Dans les jeunes musulmans de France, il y a toujours ceux qui sont à la recherche d'une maturité et ceux qui ne font pas face à la réalité de leur terrain. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous dans cette salle peuvent voter. Ils sont considérés par la loi française comme des adultes. Devant Dieu, ils sont des êtres responsables, mukallafoun, et devant Dieu, ils doivent répondre à leurs responsabilités. Donc aujourd'hui, c'est un défi sur lequel nous devons réfléchir véritablement, chacun et chacune d'entre nous, comme des êtres adultes, mûrs, comprenant le terrain dans lequel on vit et cherchant une formation qui y réponde. Comme il est mis en évidence dans le sujet, quel constat faisons-nous? Quel est le constat que, en traversant l'Europe, nous sommes dans l'obligation de faire? Nous avons, et c'était normal pendant un temps, importé une formation de, mettez des guillemets, là-bas. Là-bas, où est-ce que cela se trouve? Ça se trouve dans le lieu d'origine d'un certain nombre de frères et de sœurs, que ce soit nos parents immédiats, ou que ce soit des étudiants qui, avec la meilleure intention du monde, n'ont fait que ce qu'ils pouvaient faire dans la situation qui était la leur devant Dieu. Et ceci, nous devons les en remercier. Nous devons effectivement remercier nos frères et nos sœurs qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire dans un contexte qui leur était totalement original. Qu'ont-ils fait ? Ayant suivi une formation dans un autre lieu, ils ont simplement rapporté ce qu'ils faisaient ailleurs pour pouvoir le faire ici. Certains ont essayé l'adaptation, d'autres ont simplement imité ce qu'ils avaient à faire en fonction de leurs compétences. C'est vrai pour beaucoup de nos parents. Et à plus forte raison, nos parents, nous ne pouvons pas leur en vouloir. Ils n'étaient pas pédagogues dans leur formation et surtout une chose, ils ne connaissaient pas le lieu nouveau dans lequel ils allaient vivre. Vivre l'exil, pour les parents que vous avez eus pour la plupart, ça ne pouvait pas signifier pour eux avoir la connaissance immédiate du nouveau terrain en Europe ou en France. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont transmis comme ils ont pu, souvent de façon traditionnelle, souvent avec le bagage qui fut le leur. Alhamdoulillah, c'est une chose qui a beaucoup aidé le fait que vous soyez là aujourd'hui, parce que pour beaucoup d'entre vous, la formation de vos parents et la formation que vous avez reçue à la maison, une formation sans beaucoup de théorie, sans beaucoup d'explications, mais avec beaucoup de cœur. Elle a été une formation qui s'est passée dans le silence, dans le rappel, dans le souci, dans la conscience des parents. Ils ne pouvaient pas faire autrement, mais ce qu'ils pouvaient faire, ils l'ont fait au moins. Alhamdulillah. Reste qu'entre les parents qui n'ont fait que ce qu'ils pouvaient faire et qu'ils l'ont fait, parce qu'il n'y aurait pas 5 millions de musulmans comptabilisés en France, avec une conscience qui s'éveille si les parents n'avaient pas fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont été, à leur façon, des personnes qui ont transmis comme ils pouvaient, ce qu'ils pouvaient, mais ce qu'ils pouvaient, ils l'ont fait. Et on se souviendra pour eux de cette formule coranique « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Dieu ne demande à un être que ce qu'il peut faire. Bien. Quant aux étudiants qui, plus tard, pour des études, ont amené avec eux des modèles de formation des pays majoritairement musulmans, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils n'avaient pas non plus la connaissance du nouveau terrain qui était le nouveau terrain européen. Ils ont apporté une formation et ils ont pour beaucoup contribué à l'amélioration de la qualité de l'enseignement des sources islamiques. Et là aussi, il faut les en remercier et rappeler pour eux aussi qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et que pour beaucoup, alhamdoulillah, ils ont, et Allah subhanahu wa ta'ala, nous pensons qu'il leur rendra, de ce point de vue-là, le mérite de leur action, apporter la formation qu'il convenait. La preuve en est, c'est qu'ils sont sans doute à la base de 80-90% de la formation de ceux qui tiennent aujourd'hui les associations musulmanes en France. Et de ceci, nous devons garder et préserver la mémoire. Ceux qui furent des étudiants et qui sont venus de pays majoritairement musulmans, ceux qui l'ont fait pour leurs études, ceux qui l'ont fait pour des questions politiques, ceux qui l'ont fait pour l'une ou l'autre des raisons, ont formé un grand nombre de cadres associatif aujourd'hui en France et partout en Europe d'ailleurs, partout en Europe. Donc, alhamdoulillah, on reconnaîtra pour eux de grands bienfaits. Autant nous reconnaissons le bienfait de l'histoire, autant nous devons avec lucidité regarder ce qui a été donné, la période de transition dans laquelle nous vivons et les nécessités de l'avenir. Et c'est là, effectivement, qu'il nous est demandé d'être lucides. Est-ce que ce qui nous a été donné nous permet de construire la société que nous devons former? Et aujourd'hui, il faut regarder les choses en face. La formation islamique en Europe est déficitaire. Elle ne répond pas aux exigences qui sont les nôtres aujourd'hui. Non pas parce qu'il n'y a pas de bonne volonté, les bonnes volontés sont très présente, mais il n'y a pas de pensée constructive et fondamentalement liée à une compréhension du terrain. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vous a dépossédé de votre passé pour beaucoup d'entre vous et que vous êtes en train de vous déposséder de votre présent. Je m'explique. On vous a dépossédé de votre passé d'exilé en continuant à parler de jeunes issus de l'immigration. Vous êtes issus de l'immigration, vous n'êtes plus des immigrés. Et ce terme-là est à bannir de votre vocabulaire. Vous n'êtes pas des immigrés pour ce qui vous concerne. 99% pour ceux d'entre vous ici sont nés ici, sont pas des immigrés. Cette espèce de continuation. Regardez, le discours est pernicieux. Infantilisation des jeunes musulmans, extériorisation de leurs racines, issus de l'immigration, ils restent jeunes pendant des générations. Étonnant quand même. Et ça, ça reste dans nos têtes. Alors, notre passé nous est volé et notre présent, nous ne l'observons pas, persuadés que nous n'avons rien à apporter. Et surtout, démunis, privés. Le terme philosophique, c'est aliéné dans nos têtes par rapport à la réalité de notre présent. C'est ce qui est en train de se passer. Au point que je ne connais pas beaucoup, ni dans les cadres musulmans qui travaillent depuis 15 ans ou 20 ans pour certains, mais disons 10-15 ans, je ne connais pas beaucoup de jeunes musulmanes et de jeunes musulmans, de musulmanes et de musulmans, qui aient compris ou qui aient assimilé sa responsabilité de penser une formation, de penser une action, en ayant lui-même évalué le contexte dans lequel il vit. Il a toujours l'impression que c'est à quelqu'un d'autre de le faire. Nous sommes une communauté qui, par rapport à son présent, a développé l'idée que c'est toujours à quelqu'un d'autre de le faire. Mais le quelqu'un d'autre, du quelqu'un d'autre, du quelqu'un d'autre, du quelqu'un d'autre, ça donne personne. Il n'y a personne. C'est à quelqu'un d'autre, c'est pas à moi. Or, la dépossession de notre maturité intellectuelle par rapport à notre présent, c'est la perpétuation dans notre communauté d'une formation bancale, d'une formation qui ne correspond pas du tout à ce que nous devons faire aujourd'hui. Et que ceux qui doivent penser à cette formation ne peuvent pas venir d'un autre contexte que le nôtre. Jamais nous n'aurons les réponses d'une vraie formation islamique en Europe par quelque chose qui nous serait exporté, que ce soit de l'Afrique, que ce soit du Golfe Persique, que ce soit du Pakistan ou de l'Inde. Ce ne peut pas être. En d'autres termes, que chacun d'entre nous sache aujourd'hui sa grande responsabilité à considérer le lieu où il vit pour développer l'idée d'une formation par rapport au lieu où il vit. Parce que peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites, mais moi je n'ai pas les compétences, je ne suis pas pédagogue. Oserais-je vous rappeler que dans peu de temps, chers frères et chères sœurs, si ce n'est pas déjà fait, vous serez papa, vous serez maman, et que papa et maman sont des éducateurs, et qu'ils éduquent en fonction d'un lieu, à une époque, dans une ville, avec des valeurs, dans un contexte, et que vous êtes forcément responsable de faire face à cela. Sauf à penser que tout viendra de quelqu'un à qui vous avez délégué la responsabilité d'éduquer votre enfant. Vous savez, cette éducation par procuration, qui est la plus grande des missions des familles musulmanes aujourd'hui, je le mets à la mosquée, je le mets dans l'association. Ils doivent rendre ma fille, ils doivent rendre mon enfant musulman. Quant à moi, ce n'est pas mon travail, c'est quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre à quelqu'un d'autre, les associations disent « on n'y arrive pas », les familles disent « on n'y arrive pas », les cadres disent « on ne peut pas », finalement, rien n'avance. Et pourtant, il y a un grand besoin de réforme. Ce grand besoin de réforme, et on va prendre maintenant sur les quatre points qui vont être mis en évidence, chacun d'entre eux, on va y réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais vous proposer,
c'est que chaque fois que quelqu'un vient vers vous aujourd'hui et vous parle de jeunes musulmans, vous le fassiez cesser en lui disant de qui tu parles. Et quand on vous parle de jeunes issus de l'immigration, vous lui fassiez cesser en lui disant de quoi tu parles. Ce n'est pas de moi dont il s'agit. Parce que dès qu'on aura construit cette attitude dans nos têtes, on saura qu'on a quelque chose à faire ici qui est un énorme défi. Vous savez lequel ? Quel est votre défi ? Finalement, il est très simple. De deux choses l'une. Soit on continue comme ça, et ça veut dire que 80% de la communauté musulmane se perd parce qu'on ne sait pas où l'on va. Soit chacun d'entre nous dans cette salle se dit « Mais moi maintenant, il faut que je comprenne bien cette vie pour que je fasse une formation islamique qui corresponde à cette vie. On veut des êtres équilibrés, on ne veut pas des êtres déchirés, on veut des êtres transparents, on ne veut pas des schizophrènes. » Mais ça, ce n'est pas une personne qui va vous donner la réponse. C'est une communauté qui relève le défi de sa formation. Et chacun va y contribuer. Chacun va y contribuer. Tellement chacun que j'aimerais vous dire une chose. L'un de ceux qui a fait, avec des années et des années d'études et de réflexions, qui m'a fait changer mon discours sur l'islam, c'est un jeune de 14 ans, 15 ans, dont je parle souvent parce que son image reste marquée au sortir d'une mosquée quand il est venu en face de moi et qu'il m'a dit « Mais pourquoi vous parlez jamais des problèmes qui nous intéressent ? Pourquoi vous parlez jamais de nous ?» Je sortais d'une conférence content de la théorie. Il m'a fait atterrir dans la pratique pour me dire « Écoute mon frère, tu planes. » Je vous promets que ces mots-là ont été beaucoup plus que des heures avec des chouillours. Et lui, à sa façon, il a contribué à une réflexion en disant « Si tu parles pas de moi, arrête de parler. Ça sert à rien que tu parles aux musulmans de France d'un islam qu'ils ne verront jamais parce que ça leur correspond pas. Tu es en train de parler comme si tu étais sur Mars. Et nous sommes en France. » Eh bien, reprenons cette éducation et posons-nous les questions de savoir pourquoi il faut qu'elle soit réformée. Il faut qu'elle soit réformée parce qu'effectivement, entre ce que nous avons reçu et le lieu dans lequel nous vivons, il y a des décalages. Et pour bien connaître comment combler ce décalage, il faut qu'on se pose une question très simple. Quel est l'objectif de l'éducation, de la formation que nous voulons ? Quel est cet objectif-là ? Alors, cet objectif-là, c'est ce qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'il faut réformer. Alors, c'est mon premier point, et j'aimerais vous proposer deux choses. Je vous demande d'être attentif parce que je ne suis pas en train de parler à des personnes vis-à-vis desquelles je me dis qu'au moment où je leur parle, ils sortent ou ils écoutent soit une cassette, soit ils écoutent un cours, puis ils sortent, puis ils disent bah, « c'était intéressant ». C'est véritablement aujourd'hui aussi un rapport à vous qui est un rapport de responsabilité. Je participe avec vous à une réflexion qui nous rend tous et toutes responsables de la mener plus loin, chacun de son point de vue, pour pouvoir faire contribuer cette communauté à avancer dans le bon sens. Quels sont les objectifs de notre formation ? Deux volets. D'un côté, les sources, et leur compréhension va y venir, et de l'autre côté, le contexte. Une bonne musulmane, un bon musulman, a un rapport avec ses sources et vit dans un contexte, n'est-ce pas ? Former, c'est ça. C'est réussir à faire le lien entre la source du Coran et la tradition du prophète, et le contexte dans lequel je vis. Le problème, il est là. C'est que dans la simplicité de ce que je dis, quelqu'un peut me dire ceci au Maroc, il peut me le dire en Égypte, il peut me le dire en Suisse, il peut me le dire en France. Les mots, théoriquement, disent exactement la même chose. Simplement, une formation, ce n'est pas les mots. C'est ce qu'on met à l'intérieur de ce rapport aux sources qui est important. C'est ça la pédagogie. Alors, posons-nous la question de savoir quel rapport aux sources nous voulons en Europe. Parce qu'il n'est pas le même que dans un pays majoritairement musulman. Je vais vous donner un exemple. Vous n'avez pas besoin de la même façon d'être en contact avec le Coran dans un pays où vous avez 5 fois l'appel à la prière et des gens qui vous expriment dans leur comportement le souci d'être proche de Dieu, même de façon éloignée dans leur vie quotidienne, que quand vous êtes en plein milieu de Lyon, il n'y a pas d'appel à la prière, il n'y a pas de comportement éthique, il n'y a qu'une télévision dont le seul but est de vous faire oublier. Vous n'avez pas le même rapport aux sources. Donc il faut bien penser à comment on va aborder la source, puisqu'on ne vit pas dans le même contexte. Ce petit élément-là, il change tout à l'éducation. Il change tout. Parce que le rapport que vous pouvez... Je le sais, je vais vous donner un exemple. Par rapport à mes 3 enfants, j'ai compris le changement de dispositif de leur cœur entre l'époque où on a vécu en Égypte et l'époque où on a vécu à Genève. Le cœur s'oriente différemment dans un contexte où on entend l'appel, dans un contexte où quand on se salue, on dit en permanence et tous les jours « Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh » on sent un comportement. La façon d'aborder le Coran sera différente que quand je me retrouve à Genève. Il n'y a rien de tout ça. C'est le vide total. Est-ce que je vais leur parler du Coran ici, comme ils l'ont entendu là-bas? Mais non. Parce que là-bas, il y a le vêtement. Ici, il y a le vide. Et remplir le vide par le Coran, quand il n'y a pas de vêtement, est différent que de remplir et de rappeler le cœur quand il y a le vêtement. Le grand problème, ce serait de faire la même chose ici que ce qu'on a connu là-bas. Parce qu'alors après, je leur parle du vêtement. Un vêtement qui protège que le vide. Ils deviennent schizophrènes. On voulait qu'ils deviennent musulmans. N'est-ce pas? Donc il faut revoir cette formation. Le rapport aux sources, il implique 4 domaines. 4 domaines, il faut les entendre véritablement dans la profondeur. Le premier de ces domaines, sur lequel vraiment nous avons beaucoup à insister dans un espace où il n'y a pas de rappel, c'est une chose très importante. C'est que quand vous avez des rappels autour de vous, parfois il n'y a même pas besoin de comprendre, puisque vous êtes déjà en train de sentir. Mais quand il n'y a pas de rappel autour de vous, vous devez passer par le comprendre pour pouvoir sentir. Nous avons besoin d'une formation islamique qui se transforme non pas de la seule mémorisation des textes, mais de leur compréhension. Insister dans toutes les formations, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, mais évidemment à chacun selon son niveau, sur « comprends ce que tu apprends ». Pour 2 raisons. Parce que pour vivre en Europe, il faut comprendre pour que ton cœur se réveille. Et qu'en plus de ceci en Europe, tout le système éducatif passe par là. Donc on ne peut pas faire une éducation islamique qui soit strictement affective parce qu'elle serait une éducation de l'émotif quand tu aurais la tête colonisée par autre chose. Donc il faut passer par des règles. Cette règle est vraiment, je vous le dis parce que je sais combien, comment ça se passe, même en ayant ce souci tous les jours avec mes propres enfants, parfois on tombe dans le piège. Apprends, j'ai l'impression que ça suffit. Quand toute ta vie en fait dit, il faut que tu comprennes. Des versets qu'on apprend, ils viennent à la mosquée, apprends. Ce que tu comprends, c'est pas important. Le fait est que la semaine prochaine, tu dois savoir 5 versets. 5, c'est le nombre que tu apprends. Quant à ce que tu as compris, je sais pas. Mais on peut pas vivre comme ça ici. Ça n'est pas possible. Et à tous les niveaux, le premier objectif de notre rapport aux sources, comprends et le faire. Vraiment, c'est essentiel. Ici. Je ne dis pas que ce n'est pas essentiel ailleurs, mais ça se structure différemment. apprendre par l'intermédiaire de comprendre ce qu'on apprend. Et ça veut dire qu'il faut une formation qui développe à chaque âge de l'éducation les modalités du comprendre. Pour un jeune, on ne commence pas à lui dire, pour qu'il sache que Dieu est présent, l'abstraction de la Aqidah. On lui fait regarder le monde. On lui fait comprendre la nature pour se souvenir de Dieu, mais on lui fait comprendre. Alors qu'il y en a certains d'entre nous, ils ne parlent jamais de la nature à leurs enfants. Ils leur parlent du fait d'apprendre des versets, des versets, des versets, des versets. Tu seras musulman. Et en plus, attention, c'est pas fini. Parce qu'il faut qu'on soit fiers de nos enfants. Quand il y a une petite réunion de famille, récite mon fils. Récite ma fille, t'as vu ça un peu ? On dit pas t'as vu ça, mais c'est ce qu'on pense. T'as vu ça ? En pensant qu'on a éduqué par la quantité, alors qu'on est en train de trahir par l'incompréhension. Comprendre. Le deuxième élément du comprendre, c'est un véritable rapport aux sources qui passe par l'intimité. Je le mets en deuxième, c'est-à-dire le cœur, l'affectif. Une formation qui se fonde sur l'intime. Vous savez ce que je viens de dire sur le prophète Aïssatou Salam tout à l'heure ? Allah subhanahu wa ta'ala, comme il lui dit, on sait que dans ta poitrine se resserre une éducation qui est attentive à toutes les crispations du cœur. Toutes. Être attentif à ton fils tellement, à ta fille tellement, que tu sens et que tu fais attention à tout ce qui se crispe. Parce que là où ça se crispe, c'est là où commence l'éducation. J'ai vu, je peux t'accompagner. Mais si je ferme mes yeux, je suis en train de te laisser aller. C'est un deuxième mensonge. Partout où ça se crispe, l'éducateur observe. Une formation qui est à l'écoute de ça. Et là, vous vous rendez compte que chacun devient responsable d'éduquer sa sœur, d'éduquer son frère, d'éduquer son fils, d'éduquer sa fille, même d'éduquer ses parents. D'éduquer ses parents, c'est-à-dire d'être suffisamment attentif pour dire qu'on est en train de cheminer dans un rapprochement avec Dieu. L'intimité. Une éducation qui passe dans le rapport aux sources avec l'intimité. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous dites à un enfant ? Qu'est-ce que vous dites à un adolescent ? Qu'est-ce que vous dites à un adulte quand vous lui dites il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu peux me le répéter 10 fois, mais si tu ne me le montres pas. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'il faut tout changer. Tu ne peux pas parler des razawat, des événements de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dire il faut que tu l'aimes. Si tu ne me dis pas pour que je l'aime, tout ce qui a fait sa propre intimité, ses larmes, sa gentillesse, sa douceur. Tu veux me faire aimer quelqu'un et tu me parles de ses guerres ? Tu veux me faire aimer quelqu'un et tu me parles des fêtes de l'histoire ? Il est né en telle année, sache-le. C'est en 570 qu'a commencé la révélation. Qu'il est né. C'est en 610 qu'a commencé la révélation. L'Hégire, c'est en telle année. Tu me fais une compilation de dates et à la fin, tu me dis, tu dois l'aimer plus que toi-même. C'est à moi de construire après. Tu m'as donné des dates et tu me parles d'amour. Parce que toi, tu as déjà aimé des dates. Des dates au sens de l'histoire. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire ? C'est surréaliste. Donc, un rapport à l'intimité suppose un travail sur la matière coranique et la matière de la vie du prophète qui change tout. Il faut revoir tout. Il faut complètement changer la façon dont tu vas parler du prophète. Si tu veux que je l'aime, fais-moi comprendre, mais fais-moi aimer les détails de sa vie. Parle-moi de ce que tu dois revisiter toi-même dans le texte, pas des événements. Parce qu'il n'y a rien de plus protecteur que de dire « En 570, mon fils. En 610, ma fille. » aime-le. C'est un deuxième point, c'est une deuxième domaine de notre formation. Mais vous voyez, quand on comprend les objectifs, on sait tout le travail qu'il y a à faire par rapport à la matière. Un énorme travail, mais qui est tellement important pour pouvoir rester fidèle en Europe. C'est tellement important. C'est tellement important que nos enfants nous voient faire ce travail et que nous-mêmes nous le fassions pour nous-mêmes. Parce que je parle des enfants, mais j'aimerais pas que vous transiez une formation. Je parle de nous, là. Le cours qu'on est en train de faire, le frère, quand il vous parle, Azzeddine, tout à l'heure, et tout ce que nous sommes en train de faire, même par rapport à la zakat et les articles de fer ici, c'est pour remettre tout ceci à portée de nos intelligences et de nos cœurs ici. Donc on s'éduque dans cette voie aussi, nous-mêmes, pour mieux pouvoir aussi le transmettre. L'intimité. Deuxième élément. Deuxième élément. Avec l'intimité. Donc comprendre l'intimité est une autre chose. Vraiment, celle-ci, elle me paraît fondamentale. Vous savez, quand vous commencez à savoir que quelqu'un a confiance en lui, pas quand il joue des pectoraux, pas quand il parle fort, vous savez, le signe de quelqu'un qui a confiance, c'est quelqu'un qui peut vous dire ses fragilités. Quelqu'un qui a confiance en vous, qu'est-ce qu'il peut vous dire? Il peut vous dire, tu sais, j'ai envie de porter le voile, mais le regard des gens, ça me fait peur. Quand il vous a dit ça, ou quand elle vous a dit ça, elle est en train de vous dire, j'ai suffisamment confiance en toi pour te dire ma fragilité. Tu sais, j'ai envie de m'engager pour l'islam. Mais tout ce qui est dit dans cette société, ça me fait peur. Quelqu'un qui a la force de dire sa fragilité, c'est quelqu'un qui peut avancer vers la confiance. Mais quelqu'un qui joue à avoir confiance, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance dans ses fragilités. Or, nous avons une formation de la mise en scène. Nous avons une formation du discours, pas une formation de la confiance. Parce que nous ne savons pas nous parler, parce que nous ne formons pas chacune et chacun à être suffisamment proche de ses fragilités pour devenir porteur de confiance. Il n'y a pas de formation islamique qui tienne en Europe s'il n'y a pas de formation à la confiance, c'est-à-dire d'acceptation de nos fragilités. Sinon, c'est du vent. Et donc, c'est une formation qui va faire très, très attention à tous ces éléments-là. La confiance. Il faut que nous reprenions confiance. Alors, c'est vrai au niveau de l'intimité. Ce que je viens de dire, ça parle de l'émotif. Mais il n'y a pas seulement qu'une confiance sensible, affective. Il y a l'autre volet de la confiance. Une confiance intellectuelle. Vous avez dans cette communauté ici en Europe une matière grise qui peut déplacer, changer la société. Simplement, il faut commencer à reprendre confiance en nos capacités intellectuelles. Je vois des frères, ça fait 15 ans qu'ils travaillent dans le cadre associatif islamique. Ils ont tout, sauf la confiance, ce qui fait qu'on tourne en rond. Ils n'ont pas confiance en leur capacité intellectuelle de se dire « j'analyse le terrain, je pense une formation, j'ai les moyens de changer les choses. » Parce qu'on n'a pas une formation qui pousse à la confiance intellectuelle. Et ce qui est très 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 étonnant, vous savez ce qu'il y a? C'est que vous avez des frères et des sœurs, quand vous les voyez dans leur faculté, en médecine, en pharmacie, en littérature, quand vous les entendez parler, vous dites « Masha'Allah. Alors ça, là, c'est le top. Confiance, présence, ponctualité, précision. Tu les amènes sur le champ islamique, ça nage, ça perd tout. C'est-à-dire que la confiance que la société a pu leur donner en leur capacité intellectuelle, la communauté la leur vole. Ils ne pensent pas là qu'ils ont la confiance intellectuelle que la société leur a donnée là. C'est-à-dire qu'on fait une erreur quelque part, n'est-ce pas? Si tu as une confiance dans ton travail, une confiance à l'université, une confiance intellectuelle, là où tu agis dans cette société-là, et que tu t'en sens dépossédé dans ta communauté, c'est que ta formation, elle ne convient pas. Et le problème, il est là. C'est qu'on fait croire que dans la communauté, pour être intellectuellement reconnu, il faut une quantité de savoir islamique visible. La mise en scène. Plus tu sais du Coran, plus tu peux citer de hadith, plus on te respecte dans ton intelligence, dans la communauté. Et si toi, tu ne sens pas que ça arrive, alors tu commences à perdre les pédales. Tu seras hyper compétent là, complètement perturbé ici. Or, jamais le prophète Aïssatou Salam n'a formé comme ça. Et à plus forte raison. Il n'est pas demandé à quelqu'un qui a une compétence intellectuelle de savoir une quantité donnée de Coran et de tradition du prophète Aïssatou Salam pour avoir une compétence dans la communauté. Donc il faut une formation qui dise à chacun, ta compétence intellectuelle, quelle qu'elle soit, bien sûr il faut qu'elle soit illuminée par les sources, mais elle n'a pas besoin de toutes les sources pour devoir être reconnue dans cette communauté. Donc, un travail sur la confiance affective et sensible, un travail sur l'intelligence. Mais vous allez voir que finalement toutes les choses se tiennent. Si j'insiste sur l'apprendre, j'acquerrai forcément la compétence de mon intelligence au niveau intellectuel. Si on a insisté sur la compréhension, on va forcément me donner les clés de mon intelligence et la possibilité d'atteindre cette compétence. 1. Fondamentalement, comprendre. 2. L'intimité par rapport aux sources, la compréhension de toutes nos sources. 3. La confiance. Et 4. Quatrième élément, qui est également très très important. Développer dans ce rapport aux sources l'envie, l'énergie, la volonté d'agir, l'engagement. Former à aimer s'engager. Et là, on a des formations dans nos communautés musulmanes en Europe. Ça te donne tout, sauf l'envie de travailler. Tu sors du cours, tu te dis, oh là 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 là, je suis tellement loin qu'il vaut mieux que je reste assis. Ils ne nourrissent pas ton cœur et ton intelligence à te dire, je vais déplacer des montagnes tellement c'est important devant Dieu. Mais il t'enlève tellement ton potentiel que tu dis, oh, je ne peux rien faire. Je ne suis pas utile, je suis presque carrément inutile. Dieu jugera. Une formation source, quand tu viens et que tu lis le Coran, que tu comprennes que tout ce qui est dans le Coran te parle de toute éternité, réveille-toi, lève-toi, marche et change ce qu'il y a dans ton cœur et change ceux qui sont autour de ton cœur et change la société qui façonne ton cœur. C'est ça le rapport au Coran. Il est tellement la lumière qu'il doit tout éclairer et faire en sorte que tu aies tout envie de changer. Toi d'abord et tous les autres autour de toi. Une éducation à porter l'engagement où tu te trouves, le sens de la mission. Une formation qui te met en face du Coran en te disant « Ce texte est un texte qui te donne une mission. Lève-toi et change. » Il est là pour quoi? Pour te purifier. Liyuzakikum. Il est là pour faire en sorte de te purifier. Avance. Il ne te purifie pas par la passivité de la lecture. Il te purifie par l'énergie de l'activité. Donc, une éducation qui te dit « Ce texte, le Coran al-Karim, est un texte qui est un texte de transformation et d'action. » Et puis la vie du prophète, alayhi salam. Mais il faut que notre formation, quand on lit la vie du prophète, alayhi salam, et de tous les compagnons, quand tu sors, t'as envie de te dire « Mais il faut que je sois comme lui, il faut que je sois comme eux. » Pas une formation où tu apprends des événements, mais une formation où tu gagnes de l'énergie,
Ou quand tu sors, tu as envie de changer là où tu te trouves, tu te dis c'est pas possible. Une formation où on va te parler de gens qui, dans leur simplicité, ont changé les choses. Où on va insérer dans cette formation des exemples du prophète Assalam et de tous les compagnons et des gens contemporains. De ces jeunes noirs qui n'ont pas demandé leur reste, dont on parle très souvent et qui vous changent des gens. De votre frère en islam mort à 39 ans, dont toute l'Amérique a parlé. Malik Shabazz, qui disait « Je m'appelle X, mes parents furent esclaves, je suis un homme libre. » Il est devenu musulman et tout le monde en a parlé. Illettré, autodidacte, mais sincère. Une éducation qui te pousse à l'engagement. C'est ça notre éducation aujourd'hui. Notre rapport aux sources, donc, il est fondamental. Il faut qu'on passe par ces quatre points. Je m'excuse, je prends un peu plus de temps que ce qui est prévu, mais j'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à vous dire parce que nous avons des choses à faire. Parce qu'il y a moins de temps qu'il y a de choses à dire. À l'éducation, donc les quatre éléments. Comprendre. L'intimité dans les sources. La confiance en soi intellectuelle et affective. Et quatre, l'énergie et l'engagement. Les quatre piliers de notre rapport aux sources. Mais ce n'est pas fini. L'objectif de la formation, c'est ça. Maintenant, il y a l'objectif de la formation sur l'autre plan, le contexte, celui qui est autour de nous. Et qu'y a-t-il dans ce contexte qu'on doit garder ? Deux choses essentiellement. L'objectif, il est la compréhension dans le lieu d'une chose dont on ne parle pas mais qui est très formatrice, qui est la seule qui nous forme. C'est ce qu'on appelle la mentalité de ce contexte. Et j'entends par mentalité quelque chose qui est pluridisciplinaire. La mentalité d'un contexte, c'est son histoire. La mentalité d'un contexte, c'est sa psychologie. La mentalité d'un contexte, sont les idées, qui sont les idées formatrices du lieu où on se trouve. Vous avez beaucoup, dans votre formation islamique, assisté à une réflexion sur la mentalité du lieu où vous vivez. Non, presque jamais. En fait, on le vit tous, on suppose que c'est compris, mais on n'en parle jamais. Et on fait une formation qui n'atteint pas cette mentalité parce qu'on n'en parle pas. La formation à la mentalité de notre contexte, ça passe forcément par la connaissance de l'histoire du lieu où on se trouve. Les musulmans en matière d'histoire de l'Europe, c'est à la limite du n'importe quoi. La compréhension de la psychologie même de la langue, mettre quelqu'un à l'écoute de la façon dont il parle, vous vous rendez bien compte qu'il y a parfois des écarts entre votre façon de parler la langue française et la façon dont parlent vos parents. Parce qu'une langue, ce n'est pas des mots. Une langue, c'est une psychologie dans les mots. Le meilleur moyen pour s'en rendre compte, l'humour. Traduisez en langue française une anecdote drôle tirée de la langue arabe. C'est un flop. On vous regarde, on dit, ça te fait rire, ça. Oui, mais tu comprends. Ça, tu comprends. Le rendre accessible à nos jeunes. Dire qu'on a une formation qui comprend bien ça. Cette histoire d'une société, la mentalité, être à l'écoute de ce qui fait sourire nos enfants, de ce qui fait sourire nos adolescents, de ce qui les porte en matière. Vous savez ce qu'il y a dans la mentalité, le frère en a parlé tout à l'heure. Il y a une conception de l'espoir. Franchement, vous avez beaucoup réfléchi, vous, aux espoirs des adolescents musulmans de France. Vous avez beaucoup réfléchi aux espoirs des adultes maintenant qui ont 30, 40 ans et qui ont toujours vécu en France et qui sont musulmans. Dis-moi quels sont tes espoirs. Je saurai comment je peux te former. Mais on ne parle pas de ça. La formation au contexte passe par là. Et puis, le deuxième volet est beaucoup plus technique. Ce sont les dynamiques de notre contexte à plusieurs niveaux. Elles sont sociales, tout ce qui concerne le tissu associatif. Elles sont fondamentalement institutionnelles, toutes les institutions qui font un lieu et un espace. Elles sont structurelles, le cadre légal, constitutionnel est formateur d'une société X, celle dans laquelle nous vivons. Elles sont politiques, les enjeux politiques et les gestions du pouvoir. Et pas les gestions du pouvoir simplement apparentes. Plus on avance, plus il y a des gestions de pouvoir qu'on doit affiner. Tout ne se passe pas au niveau politique dans ce pays. Bien sûr, on apprend à quelqu'un l'institution quand il est adolescent, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Puis ensuite, on complexifie. On se rend compte que finalement, aujourd'hui, le pouvoir politique n'est pas ce qui mène le monde, que la gestion économique a pris le dessus, que les médias sont un cinquième pouvoir. Cinquième pouvoir, c'est le pouvoir. Tout ça, ça doit faire partie de notre formation, par étapes. Et quand vous avez tout ceci, je fais court parce que j'en aurai pour des heures en fait, de dire quel travail est le nôtre aujourd'hui. Entre ce travail sur les sources, les quatre points mis en évidence, le travail par rapport au contexte, entre la mentalité et la structure. Voilà ce que je voulais mettre en évidence dans le contexte. La mentalité qui donne le parfum d'un lieu et la structure qui fait la maison, qui construit ce lieu. Ça doit faire partie de notre formation. Et à plusieurs niveaux, et ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est que les étapes doivent bien entendu suivre le rythme de la maturation du jeune enfant jusqu'à l'adulte. Mais que pour nous, les étapes aujourd'hui, c'est quand même vraiment de revisiter nos sources pour les adapter à ce contexte-là. Je vous donne un exemple qui finalement est dramatique. Vous pouvez aujourd'hui, 1999, dire « Nous sommes contre l'éducation sexuelle telle qu'elle est donnée dans nos écoles. » Et on peut le comprendre. Mais quand vous voyez l'état de la communauté musulmane dans le traitement des pulsions et des tentations affectives et physiques de nos jeunes et moins jeunes jusqu'à nos adultes, eh bien vous pouvez dire que c'est un formidable échec. Qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur cette société, sur ses manques, c'est nous aveugler sur les nôtres. Il n'y a pas de formation à la gestion de son affection, à la gestion de sa sexualité, à la gestion de son corps dans la communauté musulmane aujourd'hui qui tienne avec les nécessités de notre temps. C'est pas vrai. Vous savez comment ça se voit? 80% de vos frères et de vos sœurs sont en train de crier qu'on est en train de se taire quand ils ont besoin d'entendre. Qu'ils ont besoin de formation quand nous manquons d'éducateurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a réussi à nous infantiliser. On attend quelqu'un, mais c'est à quelqu'un de le faire, c'est pas à moi. Et on fait comme si c'était pas un problème. Et vous savez bien aujourd'hui que l'un des désastres de notre situation passe par là. Si tu t'occupes pas de ta façon de gérer ton corps, tu peux toujours parler 10 ans de la façon de gérer ton cœur. Tu sais que c'est pas vrai. Vous savez très bien que c'est pas vrai. Et vous voyez bien la société. 70% des vidéos sont liées à des choses qui ont à voir avec la sexualité. La télévision est en train de produire ce qui s'appelle l'addiction, c'est-à-dire une espèce d'attache à tout ce qui a rapport au corps. Et nous, on voudrait faire comme si on ne voyait pas. Et 80% de notre communauté nous dit, alors, cette éducation, pour quand? Pas simplement pour les jeunes. les adultes de la communauté musulmane sont sinistrés de ce point de vue-là de la même façon. Sinistrés de la même façon. Ben regardez les couples musulmans, regardez nos familles. Il y a un sacré travail à faire. Il y a un sacré travail à faire. Sauf à s'illusionner, chers frères et sœurs. Mais ça, vous avez le droit de tout faire. Mais devant Dieu, vous n'avez pas le droit de vous illusionner. C'est interdit. Du haut de sept cieux, regarde les choses en face. Parce que tu n'as pas le droit de t'illusionner. Parce que tu devras rendre compte de tes illusions. Et peu s'en faut pour que nos illusions ne soient confondues avec nos passions. Je termine, après avoir dessiné les objectifs de cette formation, en disant, au niveau, au point, après les étapes, le point 3, les fondations. De quoi nous avons besoin, de quoi avons-nous besoin d'une formation qui va s'occuper de trois domaines. Et il faut y penser, je crois, Wallahu a'lam, de cette façon-là. Le premier domaine, c'est le cœur, bien sûr. Et il faut une éducation de ce cœur. On ne peut pas continuer à dire que l'islam, c'est une spiritualité et d'en parler comme si c'était un manuel de technique et de technologie de la spiritualité. On ne peut pas continuer à ne donner que des cours de fiqh. Tu dois faire ça lors de ta prière sans dire quel doit être l'état de ton cœur quand tu pries. Le cœur. Le deuxième élément, bien entendu, c'est une chose sur laquelle on n'insiste pas, c'est le corps. Il faut une éducation qui soit liée à notre gestion de notre corps. Ça m'intéresse plus, chers frères et sœurs, cette espèce de discours superficiel sur les tenues vestimentaires, s'il n'est pas lié à tout le cheminement de la spiritualité, parce qu'on ment. Parce qu'aujourd'hui, je revois trop de sœurs qui ont, à la suite d'un élan, porté le voile, et à la suite d'un tremblement de terre, l'ont enlevé et ont été jugées. C'est pas ça. Ça peut pas être ça. Par contre, ce qui doit être, c'est l'éducation de ton corps, l'éducation de ton cœur, la gestion de ton corps, l'approfondissement de ta spiritualité, pour que tu arrives à exprimer cette pudeur, ce voile, comme ce doit être, comme le formidable acte de foi qui te rapproche de Dieu pour être respecté des hommes. Mais si tu portes le voile pour qu'on te juge moins dans ta communauté musulmane, alors tu t'es pas rapproché de Dieu. Tu t'es simplement protégé des hommes. Mais on ne se rapproche pas des dieux pour se protéger des hommes. On se rapproche de Dieu parce qu'on aime Dieu. Et ensuite, les hommes nous respecteront, quoi qu'il arrive. Et puis s'ils ne nous respectent pas, on a au moins l'amour de Dieu. C'est la seule chose qui compte. Le corps. Et puis le troisième élément, c'est bien entendu notre esprit, une formation, une compréhension, un approfondissement de cette intelligence, cette formation par étapes. Et tout ceci, vous savez comment ça s'appelle en islam finalement? C'est une chose dont le frère est pratiquement responsable dans ses cours, c'est le fiqh, c'est la compréhension. C'est la compréhension, c'est le fahm al-amir, la compréhension profonde de l'éducation du cœur, de l'éducation du corps, de l'éducation de nos intelligences. C'est ça les fondations. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette formation-là, ou pas suffisamment. Le rapport à notre environnement se traduit par une question, chers frères et sœurs, que finalement peut-être vous devriez quand même vous poser. Parce que j'ai parlé des objectifs. Et puis après, par rapport à l'environnement, que voulons-nous? Finalement, qu'est-ce que vous voulez par rapport à la société dans laquelle vous êtes? Il faudrait peut-être se poser la question. Parce qu'il y en a certains qui pensent que la seule chose qu'ils doivent faire en France, c'est de comptabiliser le nombre de convertis entre le moment où ils ont pratiqué l'islam et le moment où ils rencontrent des gens. Ils comptent. Un converti, deux convertis, trois convertis. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est beaucoup plus fondamentalement la notion d'être et de trouver l'équilibre pour soi et de témoigner pour les autres? C'est ça notre but. Et ce que nous voulons, c'est effectivement trois choses également qui doivent porter notre formation. Un individu équilibré qui puisse, avec toute la délicatesse de Ibrahim alayhi salam, qui puisse dire, eh bien, qu'il a besoin que son cœur soit reposé, comme il nous a été dit tout à l'heure. Donc, la première dimension, un équilibre personnel. La deuxième des choses, une communauté, une éducation aussi, qui porte à un véritable sentiment communautaire, déficitaire aujourd'hui. Jamais la communauté n'a été aussi importante au bout de nos lèvres. Jamais elle n'a été aussi peu réalisée dans le profond de nos cœurs. La troisième des choses, c'est la dimension de témoignage par rapport à cette société. Nous ne sommes pas en France ni en Europe par hasard. Et ce que nous voulons, c'est de pouvoir témoigner avec la plus grande noblesse de ce que notre foi fait de nous. Et notre rôle est de changer cette société pour plus de justice, pour plus d'honnêteté, pour plus de spiritualité. C'est à ça que il faut nous porter aujourd'hui, c'est à ça que nous devons porter notre éducation et notre formation. En d'autres termes, et c'est ce que je traduis par mieux être et mieux agir, mieux être dans l'équilibre, dans la clairvoyance. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est la clairvoyance. L'équilibre, la clairvoyance, c'est l'honnêteté. Ne serait-ce que ça, l'honnêteté dans notre formation et l'honnêteté dans nos défis. Et par rapport à mieux agir, ce sera effectivement plus orienté vers la spiritualité, véritablement clairvoyant par rapport au corps, et surtout refusant l'infantilisation qu'on vous propose aujourd'hui. Vous n'êtes pas des immigrés. Vous n'êtes pas des jeunes ad aeternam. Vous êtes aujourd'hui des musulmans français adultes qui doivent relever le défi de pouvoir être musulmans et de pouvoir former des musulmanes et des musulmans pour enfin finalement témoigner de leur foi devant Dieu, Inch'Allah. J'espère que ces quelques réflexions pourront vous amener à y réfléchir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à savoir nous former personnellement et à former ceux que l'on aime et à former ceux que l'on rencontre. Jazakumullah kulli khair wa salam alaykoum wa rahmatoullah.